Place Info.
Et ce soir, à la une, une libération et des excuses. L'homme arrêté hier à Glasgow n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Il n'est plus entre les mains de la police et demande que sa vie privée soit maintenant respectée. Les excuses, celles du Parisien aujourd'hui en France à cet homme, ses proches, à la famille des victimes du sordide quadruple assassinat de 2011. Les médias qui s'interrogent aujourd'hui, pourquoi cette méprise? Comment en est-on arrivé là au-delà des regrets, ceux de France Info notamment. On va prendre le temps de comprendre comment fonctionne la relation entre journalistes et sources, comment travaillent les médias, comment travaille la police et comment se coordonnent les services français avec leurs homologues étrangers, en l'espèce les services écossais. Avec nous ce soir, Auriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat, présentatrice de Bonjour Chez Vous, Guillaume Labbé à vos côtés, président de l'agence Comstrat et maître de conférences à Sciences Po Paris, Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17 et ancienne eurodéputé du Parti communiste, et Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique à France 2. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Un paisible retraité devenu quelques heures donc Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, innocenté par les prélèvements ADN et des premiers doutes dès hier soir lors de la perquisition de son domicile par la police et des premiers témoignages de voisins. Écoutez.
Arrêtez, c'est une monumentale connerie. Là. Les Écossais se sont plantés royalement. On a acheté ici en 89, donc depuis 89, on le connaît. Quand on a acheté la maison, il travaillait chez Renault. Il travaillait une nuit chez Renault, tout. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce mec-là. Même avec de la chirurgie esthétique, c'est pas possible. Il a une maison en Écosse, il vit là-bas avec son épouse, et puis régulièrement il revient en France, et il est parti effectivement hier matin, c'est son copain là qui l'a emmené, et terminé quoi, je veux dire, on a appris ça, on est resté sur le cul quoi. Sa femme l'attendait à Glasgow, et donc on a appelé, et elle a dit bah oui voilà, ils l'ont arrêté, j'ai pas plus de nouvelles, rien. Elle était farée quoi.
C'est un homme sans histoire, sans problème.
Est-ce que ce monsieur avait une particularité
des doigts? Il manque un doigt.
Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique à France 2. Est-ce qu'au sein de votre rédaction, ce témoignage-là a semé le trouble comme il l'a semé au sein de France Info?
Oui, ce témoignage-là, il y en a beaucoup d'autres qui ont semé le trouble. C'est vrai qu'il faut reprendre un peu le fil, parce que tout ça s'est emballé extrêmement vite depuis hier soir. Mais ce matin, si on reprend ces derniers témoignages, c'est vrai que là, il y a un énorme doute. Quand ce matin, effectivement, dans le moment des matinales et en milieu de matinée, on commence à recevoir de la part de tous nos envoyés spéciaux sur place tout ce genre de témoignages, mais qui se multiplient. C'est pas une ou deux personnes, c'est 10 voisins qui témoignent en disant, attendez, c'est absolument pas la bonne personne. Nous, on le connaît depuis 30 ans, c'est un type plutôt simple, tout juste retraité. Donc, là, effectivement, il y a plus qu'un doute. Là, il y a une énorme crainte que tout ça se soit emballé beaucoup trop vite. La confirmation est arrivée très vite.
Guillaume Labbé, fondateur de Comstrat, spécialiste en communication et conseiller, l'histoire était trop belle. Est-ce que ce genre d'emballement, c'est des choses que l'on voit professionnellement dans d'autres secteurs, en dehors de l'information, en dehors des médias, en dehors de la police?
On peut voir dans d'autres secteurs. Pour autant, là, on parle de quelque chose qui est extrêmement grave. Hein. On parle d'un cas qui est abominable. Je voyais certaines informations hier qui disaient que la France était parfois fasciné par cette espèce de type abominable qui a massacré sa famille. C'est absolument terrible. Imaginez juste l'état de la famille qui reste de cette espèce de monstre. Imaginez aussi tout ce qui s'est passé. Enfin, imaginez pour les juges qui ont dû vivre ça, pour le procureur à l'époque qui avait instruit le dossier. Donc ce qui s'est passé est très grave. Et je trouve hallucinant que d'une façon ou d'une autre, des médias pourtant traditionnellement considérés comme extrêmement sérieux de la presse écrite se soient lancés de cette façon-là, que le ministère de l'Intérieur d'une façon ou d'une autre ait laissé et cru à un tel bobard, et en laissant les médias se fourvoyer aussi. Je pense que c'est extrêmement grave sur un plan humain, et que s'il peut y avoir des couacs de communication sur un sujet autre, là on est sur quelque chose d'extrêmement grave. C'est un grand problème à l'époque où on se dit que les journalistes, on a besoin de journalistes pour lutter contre les fake news, pour protéger la démocratie et pour éviter que des ennemis de la démocratie puissent influer et créer le chaos dans nos sociétés. C'est vraiment extrêmement grave.
Et pour comprendre comment cette information arrive à l'antenne, cette information s'est devenue intox au fil de l'heure, j'aimerais que l'on écoute les précisions de Delphine Gauthier, chef du service police-justice de France Info, qui va, minute par minute, nous expliquer ce qui s'est passé au sein de la rédaction de France Info.
20h44 hier soir, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté en Écosse, et cette alerte effectivement sur nos téléphones portables qui lance cette onde de choc, vous l'imaginez, dans toutes les rédactions, la nôtre à France Info évidemment, bien sûr, branle-bas de combat dans mon service Police-Justice. On appelle à plusieurs comme d'habitude nos sources pour vérifier cette information incroyable, les sources en qui on a confiance, des sources sûres, policières, judiciaires, bref. Bref, on mène notre travail de vérification, j'ai envie de dire ordinaire, pour une information qui nous semble extraordinaire. Très vite, en quelques minutes, nous avons confirmation. Xavier Dupont de Ligonnès a bien été arrêté à l'aéroport de Glasgow par la police écossaise. Nos sources nous disent qu'il a été dénoncé. Un appel à Scotland Yard pour dire qu'il allait prendre un avion entre Roissy et Glasgow. Et puis surtout, trois sources nous disent que ses empreintes digitales ont matché. C'est ce que les policiers écossais affirment à ce moment-là aux enquêteurs français. Il est 21h sur France Info. Nous le disons parce que tout indique que l'homme arrêté est bien Xavier Dupont de Ligonnès.
Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17. Trois sources pour France Info, quatre pour l'AFP, cinq pour Le Parisien. La règle, c'est deux. Est-ce que ça aurait pu être évité, ce à quoi on a assisté hier soir?
En tout cas, il y avait d'autres témoignages. Moi, j'étais également alertée par les propos du procureur qui disait quand même il faut qu'il y ait confirmation, il faut qu'il y ait il y a présomption de culpabilité, mais il faut vérifier par l'ADN. Donc je pense que ça pose interrogation. D'autre part, il y a cette idée quand même, mais que tu
témoignage
venais
effectivement
de développer,
qui a commencé à,
pardon,
qui a changé le ton hier soir dans les médias.
Ça a été le tournant, et ensuite il y a ce fait quand même qu'il y a une immédiateté de l'information à pouvoir transcrire, et qu'il y a un emballement. Et donc, il y a quand même une question éthique à pouvoir gérer cet emballement. Et enfin, il y a une troisième question que moi je me pose, c'est la hiérarchisation de l'information. C'est-à-dire que cette question, elle a happé toute autre question dans l'actualité, alors qu'il y a des choses très graves de par le monde. Et donc, je pense que ça mérite qu'on réfléchisse, parce qu'en effet, si on n'y réfléchit pas positivement, et si on n'agit pas en conséquence, la démocratie est en danger.
Et dans quelques instants, je vous poserai la question du rapport aux sources des journalistes. Faut-il revoir les règles de fonctionnement? Où est-ce que cela a péché? 20h10 sur France Info, Steven Goyer nous a rejoint pour le rappel de l'info.
Il a été libéré après une journée de flou. L'homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès hier soir a retrouvé sa liberté, annonce dans un communiqué de la police écossaise. Interpellé à l'aéroport de Glasgow et mis en examen hier, il était soupçonné d'être l'auteur de la tuerie de Nantes en 2011. Xavier Dupont de Ligonnès, toujours recherché pour le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Le résultat du test ADN effectué s'est avéré négatif. Nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes. Près d'un millier de personnes dans les rues de Toulouse cet après-midi, d'après les estimations de la police. La ville rose, désignée capitale nationale du 48e acte, quelques échauffourées à noter en début de cortège. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. 24 heures pour se trouver un nouveau président. Les adhérents, les Républicains, peuvent voter en ligne depuis 10 minutes pour désigner le nouveau chef du parti et départager les trois candidats au poste. Guillaume Larrivé, Julien Aubert et le patron des députés LR, Christian Jacob. Un vote ouvert jusqu'à demain soir, 20h. Une quinzaine de morts et plusieurs blessés graves dans le nord du Burkina Faso. Bilan de la fusillade dans une mosquée hier soir. Des assaillants ont ouvert le feu dans l'édifice de Salmossi à la frontière avec le Mali. En rugby, la victoire de Toulouse face à Castres 36-15 tout à l'heure. Septième journée de top 14 débutée avec la victoire cet après-midi de l'Aviron Bayonnais face à Montpellier 28-24. Trois matchs au programme à 20h45. Lyon-Pau, Racing 92 Agen et La Rochelle-Brive.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Il y a quelques instants, Marie-Pierre Vieux mettait le doigt sur l'immédiateté des médias, des réseaux sociaux pour expliquer ce qui a pu se passer hier soir. Question à ma consoeur Auriane Mancini de Public Sénat, présentatrice de Bonjour chez vous. Question, allez, mettons les pieds dans le plat. Est-ce que ça a péché côté police? Est-ce que ça a péché côté médias pour vous?
Les deux. Les deux, visiblement, puisque les médias, une de leurs sources était la police, même leur principale source était la police écossaise. Ils ont évidemment, vous l'avez dit, il y avait 3, 4, 5 sources pour certains médias du côté de la police française, du côté des autorités françaises, du côté de responsables du ministère de l'Intérieur, nous ont-ils dit. Donc ça a péché de tous les côtés. À partir du moment où vous avez la police écossaise qui vous dit « oui, on a arrêté un homme », qui se trouvait Xavier Dupont de Ligonnès. Pour nous, on a pris ses empreintes, les empreintes digitales correspondent. Vous avez cette info, vous la recoupez avec des hauts responsables du ministère de l'Intérieur, avec des sources dans la police française. Vous avez 3, 4, 5 sources qui vous disent « oui, c'est bien lui ». C'est difficile de ne pas sortir cette information.
Et je vais citer Audrey Goutard, un journaliste police-justice de France 2, qui, pour expliquer hier la façon dont la deuxième chaîne a traité cette information, dit ceci « nous appelons les plus hautes autorités de la police, celle-ci confirme à 100% qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès, Guillaume Labbé de Comstrat. Est-il possible que l'on ait cru au sommet de l'État qu'on tenait le fugitif de Nantes ?»
Il faudra regarder ce que c'est que cette police écossaise, parce que l'Écosse est le pays, il y a une éditrice ici, hein, c'est, l'Écosse est le pays où on aime les histoires de fantômes, c'est le pays du Loch Ness, donc peut-être qu'il y a ça. Pour autant, je pense qu'un pays comme la France, qui est quand même un pays qui est menacé par des menaces terroristes, par des menaces énormes, on a bien vu ce qui s'est passé cette semaine, enfin, on est quand même à un niveau de tension où on espère et on pense qu'il y a des très grands professionnels à la tête des institutions de police et de sécurité en France. Si c'est vrai, c'est quand même très très inquiétant et je pense qu'il faut vraiment que le politique, là, pour le coup, se saisisse aussi de tout ça. Bien entendu, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à redire et on saura à la fin s'il y a des journalistes qui ont mal travaillé. Si en tout cas, réellement, le ministère de l'Intérieur, à très haut niveau, dit que... à des journalistes, allez-y, lancez-vous et racontez à tout le monde que on a attrapé cette personne. C'est quand même très inquiétant.
Jean-Baptiste Marteau, France 2.
Mais il y a un emballement médiatique, évidemment, après ces informations. Mais il faut voir d'où viennent la forme, d'où viennent les sources. Là, effectivement, on le disait, des plus hautes autorités de l'État, vraiment des sources très sûres de la police, des sources qui sont travaillées régulièrement et qui, dans 99,9%, nous donnent des informations extrêmement sûres et vérifiées.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment travaille une source, peut-être pour nos auditeurs?
Voilà, là, il faut peut-être reprendre le fil de cette affaire. En fait, ça part de la police écossaise qui dit « nous avons ces empreintes digitales, c'est votre gars, allez-y, c'est bien lui ». Le problème, c'est que la police écossaise, alors ça on l'apprend après, ne transmet pas les dites empreintes digitales à la police française. C'est uniquement sur du rapport de confiance. Alors, c'est peut-être là qu'il faudra voir où ça a péché. C'est que peut-être la police française et les autorités françaises ont trop fait confiance à leurs homologues écossais. Mais une fois que nous, journalistes français, nous appelons nos sources au renseignement, au ministère de l'Intérieur, chez la direction de la police scientifique, et que toutes ces sources-là, habituellement extrêmement fiables, vous dites « oui, c'est bon, vous pouvez y aller », c'est ce qu'on se considère dans notre métier comme une source fiable. Nous, on n'est pas policiers, nous, on n'est pas sur le terrain en train d'interroger la personne qui vient d'être arrêtée. Ça, c'est le boulot de la police. Donc nous, on doit faire confiance aux sources qui sont fiables, et habituellement, ces sources sont fiables. Là, il y a eu effectivement un gros, gros loupé, a priori d'abord de la police écossaise, ensuite des autorités françaises, et puis un emballement médiatique quand même, qui a été bien sûr extrêmement fort, mais proportionnellement à ce que cette affaire représente. C'est vrai que c'est le fait divers qui passionne le plus les Français depuis maintenant des années. Regardez le nombre de livres, le nombre de documentaires qui sont sortis sur l'affaire du pont de Ligonnès. Bon, il faudra quand même revoir et se poser les questions. Tant qu'il n'y a pas des confirmations officielles, c'est-à-dire avec l'ADN, qui est aujourd'hui la source indiscutable scientifiquement, il faut que nous, journalistes, nous nous interrogions, nous mettions plus de conditionnels, nous mettions plus de précautions dans nos analyses et quand on donne ce genre d'informations.
Vous évoquez la spécificité de l'affaire Marie-Pierre Vieux des éditions Arcane 17. Est-ce que c'est ce qui a pu expliquer aussi cet emballement, le fait que cette affaire, elle passionne, effectivement, elle fascine, hein, des livres, des documentaires, des soirées entières. Aujourd'hui, on en parle dans les cafés, un peu partout en France, on s'interroge sur où est Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, tout à fait. Puis c'est le genre de fait divers qui touche au cœur. Comme en notre temps, c'était l'affaire Grégory, mais on est dans un feuilleton populaire, quelque part.
Affaire Grégory, où il y avait eu aussi tout un tas d'informations contredites par la suite.
Et ça continue encore aujourd'hui.
Voilà. Par contre, je voudrais vraiment revenir, moi, sur le fait que je suis quand même interpellée par ce qui se passe dans la presse. Moi, je jette l'opprobre à personne, parce que je comprends très bien comment marche le travail de journaliste. Et le fait que, dès lors que quelqu'un sort une info, ben, très très rapidement, ben, il faut confirmer, infirmer, mais en tout état de cause, on ne peut pas être le dernier. Mais en même temps, je pense que de plus en plus, va falloir s'interroger. Aujourd'hui, on a des gens qui parlent de slow journalisme. Alors, c'est plus compatible avec la presse écrite, évidemment,
pour traduire
en
français.
Aller travailler, accoucher de quelque chose qui soit complètement motivé, qui soit complètement pertinent. Mais je pense quand même que cette séquence-là, ajoutée à beaucoup de séquences cette semaine, hein, au plan de l'Europe, hein, avec Macron, Goulard et autres, ça jette l'opprobre sur tout le système institutionnel, que ça parte de la politique, que ça passe également par les médias, ou alors on parle quand même de la justice et de la police par un autre grand service public auquel on croit.
Aurélie Mancini, est-ce que, comme le dit Marie-Pierre Vieux, cette affaire lance l'opprobre sur tout le monde, police, justice, médias, tous pareils?
forcément, déjà, les Français ont peu confiance dans les journalistes. On va pas se mentir que ça rajoute un peu plus au manque de confiance et effectivement peut-être au problème démocratique. Il y a une perte de confiance dans les journalistes qui entraîne une perte de confiance dans la démocratie, qui entraîne une perte de crédibilité de la parole publique. On l'a vu depuis 10 jours avec l'incendie de Lubrizol de Rouen. Voilà, il y a effectivement une perte de crédibilité, en tout cas aux yeux des Français, en la parole publique, en la parole des autorités et en la parole des journalistes.
Vous, en tant que journaliste de Public Sénat, pour revenir sur la notion de source qu'évoquait Jean-Baptiste Marteau de France 2, c'est quoi une source crédible? Est-ce qu'il y a toutes les sources sont crédibles? J'irais du même degré, il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on confirme avec elles ou on infirme une information?
Nous, à Public Sénat, je dirais que c'est plus simple que pour une chaîne d'info, puisque nous, on n'est pas dans une course au scoop, on n'est pas dans une course à l'audience, on n'est pas dans une course à sortir une information rapidement. Donc, on a cette chance de pouvoir prendre le temps de vérifier, prendre le temps d'avoir une information. On n'est pas dans une concurrence avec d'autres chaînes d'info pour sortir une information. Donc, sur ce type d'affaires, déjà, on n'est pas, nous, sur ce type d'affaires. Et en plus, on n'est pas dans une course à l'immédiateté. Et je comprends, à la place des chaînes d'info, on est dans une course à l'immédiateté où il faut sortir le scoop, où il faut pas être à la traîne. Quand vous avez des sources fiables, Jean-Baptiste l'a dit, des sources fiables, c'est des sources dans la police, c'est des sources haut placées dans les ministères. Ce sont des sources qui habituellement...
Au fil de l'eau.
Ce sont les mêmes sources avec lesquelles vous travaillez. Vous avez l'habitude de travailler quand vous êtes dans ces rédactions avec des sources qui sont fiables, qui vous donnent des infos, qui vous alimentent. Vous les connaissez, vous avez confiance.
Pour prendre l'exemple de la politique que je connais le plus et que je suis au quotidien, par exemple sur une mesure gouvernementale, si c'est un député de la majorité qui vous la donne, ce n'est pas la même source et n'a pas la même valeur que si c'est le directeur de cabinet ou le directeur de la communication d'Édouard Philippe à Matignon qui vous confirme cette information. Et donc forcément, si quelqu'un va vous dire « Tiens, demain on va voter cet amendement par exemple », nous, si ça a été confirmé par un député, on ne va pas le donner à l'antenne. Si c'est le directeur de cabinet d'Édouard Philippe qui nous dit « Oui, c'est bon, cette mesure est soutenue par le gouvernement et on va la voter », ça effectivement, là, c'est tout de suite une valeur bien différente. Et c'est le problème de cette affaire, c'est que les sources étaient très haut placées.
Et ce sont les sources habituelles des journalistes qui travaillent sur ce type de dossier.
Et on continue de dérouler ces cafouillages et ces incompréhensions juste après le rappel de l'information, 20h20 sur France Info. Stephen Goyer qui nous rejoint.
Il réclame la vérité sur l'impact de l'incendie de l'usine Lubrizol. Plus d'un millier de manifestants mobilisés cet après-midi dans les rues de Rouen. Un défilé parti à 15h du palais de justice avec des slogans comme « On veut la vérité, Lubrizol doit payer » ou encore « Lubrizol coupable est accomplice ». Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été arrêté. Le test ADN effectué sur l'homme interpellé hier soir à Glasgow s'est révélé négatif. L'homme, que ses voisins ont décrit comme un retraité paisible qui vivait entre Limay dans les Yvelines et l'Écosse, a été libéré par les autorités écossaise ce soir. Mis en examen depuis hier, il était soupçonné d'être l'auteur du quintuple meurtre de Nantes en 2011. L'Allemagne durcit le ton face à la Turquie. Berlin interdit l'exportation d'armes en direction d'Ankara après l'offensive turque lancée sur le nord de la Syrie. Depuis le début de l'attaque mercredi, 74 combattants kurdes et 30 civils ont été tués selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme et plus de 100 000 personnes déplacées. Les côtes japonaises dévastées par le typhon Agidis, des glissements de terrain, des inondations et des vents violents ont déjà causé la mort de 2 personnes. Le typhon a frappé la capitale Tokyo cet après-midi avant de s'orienter vers le nord-est du pays. Plus de 7 millions de personnes ont reçu des consignes d'évacuation. Et puis, Bauke Mollema s'offre le tour de Lombardie. Le coureur néerlandais s'est imposé en solitaire cet après-midi après une échappée de 18 km. Mollema s'offre sa première victoire dans une classique et succède au Français Thibaut Pinot.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Une cascade d'incompréhension, de cafouillage, mais à ce stade, ni côté français, ni écossais, on ne s'explique l'origine de l'erreur. Question posée par l'AFP aux autorités des deux pays. Erreur qui a conduit à confondre un retraité français avec Xavier Dupont de Ligonnès. Au départ, un match, une concordance d'empreintes digitales, mais des normes différentes entre Paris et Glasgow. On va y revenir. Pour l'avocat de la famille Dupont de Ligonnès, c'est du côté de l'enquête que l'erreur a été commise. Écoutez.
Cet emballement démarre par le fait que la police ferait mieux de rester discrète tout de même parce qu'elle a donné cette information immédiatement à un service de presse qui forcément l'a diffusée et ça a été repris par tout le monde alors qu'on ne sait rien. Donc ce que j'aimerais, c'est que la police travaille dans la totale discrétion.
Marie-Pierre Vieux, aujourd'hui vous dirigez les éditions Arcane 17, je le précisais, vous étiez eurodéputée jusqu'il y a peu, vous avez été peut-être, sans doute, une source de journalistes politiques. Question, alors vraiment, pour le coup, à l'ancienne politique, oui. Est-ce que ça arrive à une source de parler trop vite, comme semble le dire l'avocat de la famille Dupont de Ligonnès?
Il y a un emballement. Et il est vrai que quand on fait de la politique, on veut faire connaître les choses, on veut les disséquer, on veut les donner. Mais ceci dit, là aussi, y compris de la source, il y a une question éthique, c'est-à-dire que quand on est parlementaire, on n'est pas chef de cabinet, on argumente politiquement, tout simplement. Donc, on n'est pas dans des débats de seconde zone, on est sur des orientations politiques et on essaie d'alimenter dans ce sens-là. Donc, je crois qu'on n'en fait pas trop, quand même. Par contre, le témoignage-là est accablant. Est accablant vis-à-vis de la police et de la manière dont la police aurait communiqué. Ça pose question quand même.
Guillaume Labbé, à la tête de Comstrat, vous officiez souvent au conseil, hein, alors soit de politique, soit d'entreprise, d'institution, etc. Est-ce que vous donnez ce conseil de ne parler pas trop vite tant qu'on n'a pas tout vérifié? Comment est-ce qu'on peut en arriver au fond? Est-ce qu'une source parle trop vite ou s'emballe un petit peu aussi?
Tout le temps, enfin, c'est exactement ça. Il y a, en fait, une double responsabilité, mais à la limite, c'est vrai que si on était dans un ancien monde sans chaîne de télé continue, sans Internet avec le push qu'on reçoit, donc le message réduit qu'on reçoit par Le Parisien hier, et qu'il n'y a pas toute cette espèce de capacité à aller vite, on aurait évité il y a eu 200 heures peut-être de chaînes d'info qui ont dû parler que de ça. Alors qu'on l'entendait là pendant le résumé de l'actualité par votre confrère, on entendait que les Turcs sont en train de massacrer, ou en tout cas d'envahir de façon profondément illégale des gens qui nous ont peut-être protégés de Daesh et qui sont en train de se faire déportés, on parle de plus de 100 000 personnes déplacées, de centaines de morts au minimum, et devant un silence qui est hallucinant, avec un très grand cynisme politique, si on avait pu passer aller un quart du temps qu'on a passé à dire n'importe quoi aux Français sur un sujet qui au fond est sordide et qu'on devrait quand même essayer de laisser un peu quand même en paix tous ces pauvres gens qui ont été massacrés, si les chaînes avaient pu peut-être passer un peu moins de temps sur ce fait divers qui est un fait divers, alors qu'on a quand même à quelques kilomètres de l'Union européenne un espèce de massacre de masse qui est en train d'avoir lieu, je pense qu'on serait moins ennuyés. On est tous ennuyés parce qu'on se sent, on a l'impression d'avoir subi un grand mensonge. Mais en réalité, je pense que les journalistes et les médias doivent parler aussi de ces choses qui se passent devant nous.
Et on en parle sur France Info, mais pour revenir vraiment à la fonction conseil, comment est-ce que vous évoquez, normalement, les réseaux sociaux, Internet, l'instantanéité, comment on conseille à une institution, à un politique, à un client, en somme, de ne pas s'emballer, de ne pas peut-être se laisser aussi prendre dans cette pression de l'instantanéité, et de ne pas in fine donner une fausse information?
Fondamentalement, surtout quand c'est la police,
c'est difficile,
quand c'est des choses aussi compliquées, non, ils auraient eu tout intérêt à ne rien dire et peut-être à préparer un peu plus intelligemment la façon dont ils pourraient ramener, par exemple, le suspect en France, quitte à faire de la communication dessus, si vraiment ils veulent faire de la communication dessus. On pense beaucoup pour la police, par exemple, aux saisines de drogue, souvent ils aiment bien, ou d'armes, où on prend la photo, on prend les images de tout le stock, enfin, il y a des choses à faire en communication qui sont bien plus intelligentes que de confirmer ou d'infirmer ou voire de dire soi-même à un média quelque chose qui est faux et que finalement, si réellement le ministère de l'Intérieur ou en tout cas les services de police à haut niveau ont confirmé cette information sans en être sûr, c'est une erreur. Et moi, j'aurais évidemment conseillé de ne rien faire avant qu'on soit au clair et en plus que ça aurait pu être amené à leur propre crédit si la police française avait pu ramener cette personne.
Après, si je puis dire un mot juste, parce que ça m'interpelle quand même ce que vous venez de dire, parce qu'on vient de parler de la police, mais là, sur la presse, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de la hiérarchisation de l'information est importante. Parce que c'est vrai que ce fait divers peut passionner, peut être attractif. Il y a quelque chose de tellement sordide et de tellement terrible à la fois que ça vous attire. Mais en même temps, l'actualité que vous avez citée avec la Turquie, avec le fait qu'il y a, oui, des centaines de milliers de personnes déplacées, avec le fait, on l'a vu il y a un instant, que la journée Gilets jaunes fait qu'il y a eu encore des interventions policières et tout, est occulté, passé au second rang. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie question, qui est, alors j'ai un peu la casquette politique hein, pendant 30 secondes, il y a une vraie question qui est posée quand même à l'information et aux journalistes en général.
Et dans quelques instants, j'entends votre reproche, Jean-Marie Pierre-Vieux, même si évidemment les Gilets jaunes et l'offensive turque dans le Kurdistan, enfin en tout cas contre les combattants kurdes, sont traité sur cette antenne de France Info et dans d'autres médias. J'entends vos arguments. On passera à d'autres sujets. Allez, tiens, je vous écoute. On passera à d'autres sujets, notamment les Républicains. Se refonder ou mourir. Les militants votent ce week-end. Nous reviendrons également sur cette vidéo qui suscite l'indignation en Bourgogne-Franche-Comté. Une mère voilée prise à partie par un élu du Rassemblement national. Nous en débattrons dans quelques minutes dans Les Informés, juste après la météo et le journal.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 70 ans. Soucieuse de l'avenir des futures générations, j'ai décidé de faire un legs au Secours Populaire. Il me tient à cœur que mon patrimoine soit utile à ceux qui en ont le plus besoin, en France et dans le monde.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur. On peut aussi le transmettre.
Alors, cette grande nouvelle, raconte.
Bon, tu sais que je viens d'acheter mon nouvel appartement chez Vinci Immobilier.
Oui, t'as trop de chance.
Comme tu cherches un logement neuf, je t'ai parrainé. À toi un grand choix d'appartement et à moi les chèques cadeaux si tu signes chez Vinci Immobilier.
C'est génial, ça.
Eh oui, que vous soyez client ou non, en parrainant vos proches, vous pouvez gagner jusqu'à 8000 euros en chèques cadeaux. Et à la rentrée, découvrez 20 nouvelles résidences et plus de 2600 logements neufs partout en France sur vinciimmobilier.com. Habiter ou investir avec Vinci Immobilier, on a tous à y gagner. Conditions d'éligibilité et règlements disponibles sur le site.
France Info Météo, avec Gautier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Les prévisions météo sur France Info avec vous, Jean-Michel Golinski.
Demain, dans une ambiance de plus en plus douce, de l'ordre de 2 degrés de plus qu'aujourd'hui, avec par exemple 22 à Lille et à Montpellier, 23 au Mans, 25 à Paris, Tours, Bourges et Marseille, 25 à 27 du nord-est au Dauphiné et des Charentes au Limousin, jusqu'à 30 degrés au sud de la Garonne. Le temps sensible ne va pas beaucoup changer avec le maintien d'un ciel maussade sur le Languedoc, toujours attisé par un vent marin très turbulent. À l'autre extrémité du pays, c'est-à-dire le long de la Manche, nuages et petites pluies vont s'imposer. Notez qu'au fil des heures, ce temps maussade va gagner vers la Loire. Plus bas, du Poitou-Charentes en allant vers le nord-est, risque d'ondées, parfois même de coups de tonnerre l'après-midi entre deux éclaircies. Enfin, plus au sud, le soleil sera vaillant, mais avec un vent sensible vers 60 km/h sur les côtes aquitaines, en vallée du Rhône et sur les extrémités de la Corse.
h 30 sur France Info, toute l'information avec Olivia Ferrandi. Bonsoir Olivia.
Bonsoir. Il dénonce l'agression militaire turque et accuse Ankara d'avoir distillé un plan de nettoyage ethnique. Des milliers de Kurdes vivant en France ont manifesté ainsi aujourd'hui à Paris, Strasbourg, Bordeaux ou encore à Lyon. Dans certaines villes, les femmes marchaient en tête des cortèges, mettant en avant l'engagement militaire ces derniers mois des femmes kurdes contre les djihadistes de Daesh. Kibar a 41 ans, fille de réfugiés kurdes, elle vit en France depuis 1989.
Actuellement, j'ai plein de membres de ma famille qui sont en prison. Je me dis que dans ces moments-là, on a envie d'être amnésique, ne plus savoir d'où on vient, qui on est, parce que ça fait très mal. Sachant que personne ne vient en aide aux Kurdes. La communauté, y a du sang des Kurdes sur les mains de la communauté internationale, parce que les intérêts géopolitiques qui jouent. Les Kurdes, c'est quand même 40 millions de personnes sans État. C'est quand même énorme. Et les Kurdes qui se battent contre la barbarie, l'égalité hommes-femmes. Comment je peux dire que je suis tellement émue et ça me fait tellement mal qu'on peut les abandonner, les civils actuellement à nos jours là, parce qu'ils sont en train de bombarder les femmes, les enfants, les civils. Donc je suis tellement mal que mes mots ne viennent pas, mais voilà.
Mercredi, au lendemain de l'annonce d'un possible retrait américain au nord de la Syrie, la Turquie du président Erdogan avait donc lancé une offensive contre les forces kurdes qu'elle accuse de soutenir les séparatistes sur son sol. Désormais, d'anciens rebelles syriens opposés au régime de Damas ont rejoint les rangs de l'armée turque. Au Japon, le typhon s'éloigne désormais progressivement de l'archipel après avoir provoqué une série de glissements de terrain et d'inondations. Les dégâts matériels sont impressionnants. 50 000 habitants ont été contraints de quitter leur domicile. Deux hommes ont été tués. Il y a près de 80 blessés. En Californie, les flammes continuent de dévorer la végétation du nord de Los Angeles. 25 maisons détruites également. Un millier de pompiers luttent sans relâche contre ce feu depuis jeudi. Attisé par des bourrasques de vent chaud, il progresse encore à la vitesse affolante de 300 hectares par heure. Deux personnes ont trouvé la mort. En France, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès reste entier. Le retraité interpellé hier à l'aéroport de Glasgow en Écosse n'avait aucun lien avec le suspect retranché depuis la tuerie de Nantes en 2011. Le suspect recherché, la police écossaise annonce ce soir sa remise en liberté. Le retraité vit entre Limay dans les Yvelines et Dunon en Écosse où se trouve sa femme. Au lendemain de l'installation d'un comité pour la transparence et le dialogue à Rouen, près de 2000 habitants, syndicalistes, militants politiques se sont rassemblés aujourd'hui devant la préfecture à l'appel de la CGT. Ils ont réclamé la vérité sur les conséquences sanitaires de l'incendie dans l'usine Lubrizol. Hier soir, une trentaine d'agriculteurs avaient déversé du lait devant la préfecture, alors que le préfet n'a pas encore autorisé la commercialisation du lait. Le sport, le top 14 de rugby, 7e journée du championnat de France. Bayonne bat Montpellier 28-24. Toulouse s'impose face à Castres 36-15. Les informés, la suite, c'est tout de suite.
20h-21h, les informés, Neïla Latrousse.
Avec Oriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat et présentatrice de Bonjour Chez Vous. Guillaume Labbé, président de l'agence Comstrat et maître de conférences à Sciences Po Paris. Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17, ancien eurodéputé du Parti communiste. Et Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique à France 2. Eux ont commencé à voter à 20h, il y a 33 minutes, donc vote électronique pour les adhérents des Républicains qui doivent se choisir un nouveau président, trois candidats et un enjeu résumé par Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs de droite chez nos amis d'Europe 1 ce matin.
Ça n'est plus une affaire d'homme. Je pense que il faut qu'on arrête ce culte du chef. Il faut qu'on arrête d'attendre un sauveur, un revenant, peu importe. Je pense qu'il faut travailler et je pense que si on ne renouvelle pas tout, si on ne dit pas aux Français... Quels sont nos disait, par exemple, pour l'écologie, pour le numérique. On est en train de devenir une colonie des GAFA américains. Si on ne leur dit pas ce que l'on veut faire pour le chômage de masse, pour l'immigration, pour la sécurité, il n'y a aucune chance qu'ils nous entendent. Ils vont totalement nous happer et d'ici un an, on disparaîtra. Il y a une urgence, mais il faut travailler. La droite, elle ne peut pas être uniquement conservatrice ou libérale ou régalienne. Il faut qu'elle soit un peu des trois.
Pas une question d'homme, une question de ligne, dit Bruno Retailleau, Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique de France 2. Vous avez longtemps suivi la droite, c'est un peu des deux, ou c'est une question d'homme, c'est une question de ligne,
c'est d'abord une question de ligne. C'est quoi la droite aujourd'hui? C'est quoi les Républicains? C'est-à-dire qu'une partie de tous ceux qui étaient plutôt libéraux sont partis chez Emmanuel Macron, et ceux qui sont plutôt tentés par le populisme sont chez Marine Le Pen. Et au milieu, il reste une espèce de bande de sable où il se passe plus grand-chose. Un député des Républicains me disait cette semaine, on n'a pas créé une seule idée depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que la droite n'a plus créé d'idées depuis Nicolas Sarkozy. Et donc aujourd'hui, alors ils essaient de retrouver un homme. Bon, alors a priori, Christian Jacob, qui est le plus petit dénominateur commun, parce qu'il ne va pas faire de vagues et qu'il ne va pas empêcher un tel ou un tel de pouvoir se présenter en 2022. Mais le problème de la droite, c'est que maintenant, il faut savoir ce qu'elle représente. Il faut créer une ligne idéologique. Et le problème, malgré tout, c'est qu'est-ce qu'on a? Qui va voter ce week-end, entre-temps? Ce sont des militants qui sont un peu jusqu'au boutistes. Ce sont les derniers qui sont encore à jour de cotisation. Des militants qui ont tout perdu. Oui, qui ont perdu toutes les élections depuis 2014. Donc, qui sont à la fois un peu perdus, qui sont beaucoup radicalisés. Tous les candidats nous ont dit, ils ont croisé des gens dans les salles qui sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement à droite. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans. C'est plus du tout le même parti que celui qui a créé Alain Juppé et Jacques Chirac en 2002. Donc, là, la droite doit se réinventer. C'est quoi la droite aujourd'hui? C'est vraiment l'enjeu de cette élection.
Et sur la droitisation, vous évoquez, ces militants de plus en plus à droite. Un sénateur de l'Hérault, Jean-Pierre Grand, a claqué la porte hier des Républicains suite à un déjeuner auxquels ont participé des élus les Républicains avec le maire de Béziers, Robert Ménard, Jean-Pierre Grand, qui sur Twitter évoque un discours de jour en jour plus droitier, des rapprochements assumés avec l'extrême droite. Guillaume Labbé, c'est nouveau, un parti de plus en plus à droite. Moi, je me souviens de Charles Pasqua, je me souviens de Jacques Chirac dans les années 70.
Oui, c'est pour ça, de plus en plus à droite peut-être, mais je pense que la société est de plus en plus à droite. Je pense qu'Emmanuel Macron est de plus en plus à droite depuis qu'il est élu. Quand on voit le discours sur l'immigration de la semaine dernière et le discours qu'il tenait à Marseille, qui était presque communautariste, en tout cas d'identité heureuse minimum, voire plus. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment le vrai problème qu'ils ont. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que les Républicains ont perdu beaucoup d'élections, que c'est un parti en plus qui est quand même héritier du RPR, malgré son origine composite, c'est quand même resté très gaulliste, et donc il y a cette idée de culte du chef, et il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef parce que François Fillon a perdu, n'était pas au deuxième tour, ce qui est assez incroyable pour cette famille politique.
François Fillon d'ailleurs qui a fait son retour chez nos amis suisses de la RTS et qui dit « la droite française s'est suicidée avec ses divisions ».
Oui, mais il les a bien aidés.
Oui, c'est-à-dire que les problèmes de costume n'ont pas aidé non plus la droite, mais en tout cas, la droite a perdu alors qu'elle était faite pour être un parti de chef, dirigé par un chef et qui prend le pouvoir. Donc, je suis d'accord avec Jean-Baptiste quand il dit « il n'y a plus d'idées ». C'est clair qu'il va falloir vraiment rénover, innover. La droite est au gouvernement très largement. Emmanuel Macron, je pense vraiment qu'il est de plus en plus à droite et que s'il veut être élu, il aurait raison d'être à droite parce que les Français sont à droite, plus majoritairement. Donc, il y aura une élection demain, il y aura une personne qui sera élue. Hervé Mariton, qui avait fait un pas très bon score à la présidence des Républicains à l'époque, contre Nicolas Sarkozy, avait dit un truc très malin. Il disait à l'époque que s'il était élu président des Républicains, ce qui n'est pas arrivé, il ne serait pas candidat présidentielle. Pourquoi ? Parce que son modèle était les partis plutôt anglo-saxons où le président du parti est une sorte de secrétaire général qui est là pour faire le dénominateur commun, un peu comme Christian Jacob, hein, il est beaucoup présenté comme ça, et pas pour qu'il y ait une élection. Si le président des Républicains n'avait pas été Nicolas Sarkozy, candidat malheureux aux primaires, si ça avait été quelqu'un d'autre, Hervé Mariton par exemple, eh bien peut-être que ce parti serait en moins mauvais état, peut-être que Alain Juppé aurait pu succéder à François Fillon quand on a vu que François Fillon n'était pas capable de gagner, et les choses seraient peut-être un peu différentes. Donc moi, je ne jette vraiment pas le bébé avec l'eau du bain. Et évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour les Républicains qui ressemblent de plus en plus au PS. Mais dans quelques mois, quand sur ce plateau, on parlera des municipales, on verra bien qui a gagné les élections. On voit bien qu'Emmanuel Macron et son parti sont en train de jouer placé beaucoup plus que gagnant pour les municipales. Et qu'en réalité, moi, je vois beaucoup d'élus locaux qui étaient républicains, qui le resteront, qui ne sont évidemment pas fans de leur parti et qui ne vont pas mettre le logo en gros sur leurs affiches. Pour autant, aux municipales, on verra bien si les Républicains ont disparu ou non.
Aurélien Mancini de Public Sénat, est-ce que vous partagez ce pronostic de Guillaume Labbé ? On entend dire la droite n'a pas d'idée. C'est pas le cas, en l'occurrence, la droite sénatoriale qui amende, qui propose des textes.
Oui, non, la droite sénatoriale très active, hein, qui comme vous dites, hein, effectivement, qui amende, qui propose, qui souvent se fait reprendre ses idées, hein, la droite sénatoriale, notamment sur le texte qui est examiné en ce moment même sur le statut de l'élu pour répondre au malaise des maires, il vient des travaux du Sénat. Sur l'immigration, le débat sur l'immigration, il y a beaucoup de propositions que porte depuis longtemps la droite sénatoriale, mais vous parliez des municipales et des élus locaux. En l'occurrence, au Sénat, et c'est Gérard Larcher qui porte ça, c'est par les territoires, par les élus locaux que Gérard Larcher pense qu'il faut refonder cette droite. Et lui, il n'est pas du tout sur cette ligne droitière. Il dit qu'il faut refonder la droite et le centre. Il est pour parler au centre. La ligne droitière, on a vu ce que ça a donné aux européennes. Ça a donné un score de 8%. Donc, il fait partie, et c'est lui, hein, actuellement, qui est le plus à même de rassembler la droite, Gérard Larcher. C'est ce que dit même Valérie Pécresse. Hein. Il a fait une convention nationale jeudi soir. Rassembler la droite et le centre par les idées. Mais c'est ce que disait aussi Bruno Retailleau depuis longtemps. Bruno Retailleau, il a écrit un livre où il disait on n'aurait pas dû élire Laurent Wauquiez en décembre 2017. Pas pour Laurent Wauquiez, mais parce qu'il ne fallait élire personne. Il fallait d'abord se refonder sur les idées et ensuite nous choisir un chef. Sauf que la droite, elle est incapable de ne pas avoir de chef.
Et que Bruno Retailleau a soutenu Laurent Wauquiez quand même pour qu'il soit élu. Quoi.
20h40 sur France Info, le débat se poursuit dans quelques instants. Les Républicains se refonder ou mourir. Mais d'abord, le rappel de l'information avec vous, Steven Goyer.
Le test ADN a tranché. L'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Son domicile a été perquisitionné dans la soirée d'hier. Interrogé par France Info, ses voisins se sont dit très soulagés après la publication des résultats. Ils décrivent un septuagénaire sans histoire, marié à une Écossaise. Il a finalement été libéré tout à l'heure. Le principal suspect de la tuerie de Nantes en 2011 est donc toujours en fuite. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir abattu sa femme et ses quatre enfants avant de prendre la fuite. Plusieurs milliers de personnes réunis à Paris en soutien aux Kurdes de Syrie, rassemblement trois jours après le début de l'attaque turque sur le nord du pays. À l'appel du Conseil démocratique kurde de France, le cortège a relié la place de la République à celle du Châtelet. Mobilisation pour appeler les autorités européennes à intervenir dans ce que les banderoles sur place qualifiaient d'envahissement et de nettoyage ethnique. 15 000 litres de lait déversés près de la préfecture de la Somme à Amiens. Mobilisation d'une vingtaine d'agriculteurs en fin de matinée pour dénoncer les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et notamment la restriction de leur activité et la consignation de leurs produits. Les Irlandais verront bien la phase finale des mondiaux de rugby. Victoire du 15 au trèfle contre les Samoa, 47-5. L'Irlande rejoint notamment en quart de finale l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. Les tricolores, deuxième de leur groupe, malgré l'annulation du match contre l'Angleterre programmé ce matin. La faute à l'ouragan Agibis qui s'abat en ce moment sur les côtes japonaises. Le dernier ticket pour les quarts se jouera demain midi entre le Japon et l'Écosse.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Neïla Latrousse.
Les adhérents des Républicains votent pour se choisir un nouveau président. Des précisions sur ce scrutin. 131 268 adhérents à jour de cotisation. C'est ceux qui votent, c'est le collège électoral, amené à s'exprimer par voie électronique. Donc jusqu'à demain soir, 20h, trois candidats. Christian Jacob, le patron des députés des Républicains, donc à l'Assemblée nationale, et puis deux députés, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Point commun, tous deux quadras, tous deux énarques. Résultat proclamé demain soir et second tour le week-end prochain si aucun n'obtient plus de 50%. Marie-Pierre Vieux, vous dirigez les éditions Arcane 17, vous étiez eurodéputée, vous suivez la politique de très près, j'ai envie de dire. Est-ce que si Christian Jacob, le grand favori, n'est pas élu dès le premier tour, ça sonne quand même un peu comme un désaveu? Tout le monde dit qu'il sera élu sur un fauteuil. Hein,
On verra. Il y a toujours des surprises aujourd'hui dans les débats. Moi, ce que je pourrais dire de ce débat d'abord, c'est que quand il y a eu la création de l'UMP, on a bien vu le tournant idéologique que voulait prendre la droite. On passait du gaullisme à quelque chose qui s'apparentait à ce que Bush à l'époque faisait aux États-Unis. Maintenant, moi, je trouve en effet qu'il y a un problème politique et idéologique qui est posé aux Républicains. Et quel que soit celui qui sera élu, a priori Christian Jacob, je pense qu'il devra assumer, sauf disparaître, ce problème-là. J'entends bien que Christian Jacob apparaît comme le candidat de rassemblement, hein, le plus à même de fédérer les gens en direction des municipales. Et c'est vrai que les Républicains peuvent très bien avoir des places aux municipales, mais pour autant continuer à baisser dans l'opinion publique et être cornérisé entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, qui en effet engrange de plus en plus l'électorat, mais les gens de droite de par la politique qu'il mène. Donc je pense qu'il y a une vraie question identitaire.
Vous dites extrême droite, Emmanuel Macron, pour vous, lequel est le plus dangereux pour les Républicains, l'extrême droite ou Emmanuel Macron, lequel peut capter le plus?
Je pense qu'il y a des deux, parce que je pense que la droite est traversée des deux courants. Il y a un courant très libéral qui peut être pris par Emmanuel Macron et pour lesquels Emmanuel Macron peut apparaître comme quelqu'un de moderne. Et en effet, il y a une droitisation des consciences et du débat politique en général qui fait qu'une partie de la droite peut être aspirée par l'extrême droite.
Guillaume Labbé de Comstrat, l'union des droites, ou en tout cas les Républicains phagocytés par le Rassemblement National, par Marion Maréchal Le Pen, c'est un risque réel? C'est une chimère.
En réalité, je pense qu'on est vraiment passé d'un... Enfin, la politique de demain, et d'aujourd'hui, mais maintenant, ça va vraiment se voir beaucoup, c'est Emmanuel Macron qui a eu un projet de start-up qui a réussi et il a gagné les présidentielles par une approche vraiment comme Forza Italia à l'époque avec Silvio Berlusconi. Une machine de guerre pour gagner des élections, mais Silvio Berlusconi a eu quand même beaucoup de problèmes ensuite à cause de manque de fondement idéologique, etc. Et une république des territoires, c'est un peu ce dont parle Gérard Larcher, hein. On voit bien que dans le territoire, les gens ont voté peut-être Macron au premier ou au deuxième tour, beaucoup au deuxième tour par définition, et vont voter tout à fait différemment et ne voteront pas pour la personne qui a le tampon REM sur la tête, parce que le fait d'être peut-être plus ou moins copain avec Emmanuel Macron ne fait pas que ce sera un bon maire. Je pense que les gens vont choisir un maire qui leur ressemble, qui leur va ou qui leur va pas. Ils vont voter selon ces clivages-là, qui sont plus du tout les mêmes. Et au présidentiel, ils feront bien comme ils voudront. Ça peut être quelqu'un de droite comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse ou comme Emmanuel Macron ou comme d'autres qu'on ne connaît pas encore.
Valérie Pécresse, Xavier Bertrand qui ont quitté les Républicains pour le coup.
Oui, mais la réalité, c'est que chez les Républicains, ils savent très bien que c'est pas Laurent Wauquiez ni Christian Jacob qui seront leurs candidats, et que de toute façon, il y aura certainement un candidat qui sera soutenu par ce parti. Donc c'est quand même fondamentalement, je pense qu'il y a ce parti existe et sera un parti d'élus locaux qui risque de gagner les municipales, très franchement. Pour autant, les présidentielles seront un autre moment et ça recomposera de nouveau la vie politique, et je pense qu'on aura ça tous les 5 ans pendant un bon moment.
Vous évoquiez Christian Jacob, je me tourne vers Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique chez France 2. Pour vous, l'élection au premier tour, c'est pas fait du tout, hein?
Non, pas du tout. Et je pense que justement, il y a un grand risque pour Christian Jacob, c'est que là, effectivement, comme ça, il apparaît le plus rassembleur et donc le favori. Déjà, s'il n'est pas élu dès demain soir au premier tour, ce sera effectivement un échec pour lui. Et là, il y a vraiment quelque chose d'un peu pervers qui peut se mettre en place. C'est que Guillaume Larrivé, comme Julien Aubert, ont dit qu'il pourrait s'allier en cas de deuxième tour. Et donc, si vous avez l'un des deux qui se retrouve au second tour face à Christian Jacob, il peut se retrouver une espèce d'alliance de circonstances contre Christian Jacob. Comme je vous le disais, la plupart des militants, ceux qui vont aller voter demain, peut-être 50, 60 000 militants des Républicains, on verra, ce sont allez, les plus motivés, donc les plus à droite, les plus radicalisés, peut-on dire même, en ce moment. Donc il y a un vrai risque pour Christian Jacob de se retrouver un petit peu, de se faire avoir comme ça et éventuellement de ne pas être élu. Il y a beaucoup d'élus, les Républicains, plutôt modérés, qui m'ont dit cette semaine être très inquiets de cette élection à venir.
Mancini, Public Sénat, il peut y avoir des surprises dans cette
Bien sûr, il peut y avoir des surprises.
Il y en a eu un à droite, hein. Michèle Alliou-Marie, 99, elle n'était pas attendue, elle prend les RPR.
Ah oui, mais chez Christian Jacob, on n'est pas confiant à 100% sur la victoire demain. Mais effectivement, ça sera un échec si Christian Jacob n'est pas élu au premier tour. Ça, c'est une évidence. C'est déjà un échec, cette élection, parce qu'on n'en parle pas. Elle ne passionne pas. C'est quand même les LR, c'est quand même le premier parti d'opposition en nombre de militants. Et c'est une élection qui ne passionne pas. Et les LR, ils ont perdu 100 000 militants entre les gens qui votaient pour l'élection de Laurent Wauquiez en décembre 2017 et les gens qui doivent voter aujourd'hui pour élire Christian Jacob, Guillaume Larrivée et Julien Aubert. L'échec, il est déjà là.
Mais est-ce que ce n'est pas tous les partis, Marie-Pierre Vieux, qui perdent
aussi il y a deux choses que je voulais ajouter. C'est qu'en effet, c'est tous les partis, et surtout tous les partis qui étaient bien établis. Tout à l'heure, on a fait, dans la présentation, le parallèle avec le Parti Socialiste. Mais c'est vrai que les partis start-up se sont imposés, qu'on est quand même dans une crise profonde et dans un mouvement de refondation qui ne peut pas échapper, enfin la droite ne peut pas échapper à ça. Après, l'autre constat quand même que je voulais faire, c'est qu'on a parlé du fait qu'il y avait deux quadras. Outre le fait qu'ils sont tous les deux quadras, c'est du lourd idéologiquement quand même. Hein.
Je sens que c'est pas, non, c'est pas
non,
votre
non,
tasse
mais,
de thé.
Écoutez, Aubert avec Parrain, Mariani et Guénaud, qui est antiféministe, qui est contre le mariage pour tous, et Guillaume Larrivée, alors lui, du point de vue rhétorique, c'est terrible, quoi. Suppression du droit de sol, zéro regroupement familial, il parle de territoire occupé. Quand même, pour parler de certains départements comme le 93, et de chaos migratoire. Donc oui, quand même.
Pour vous, c'est pas du renouvellement.
Ça passionne pas les Français. Oh, si le renouvellement est celui-là, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'avoir Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et avoir quelqu'un qui aspire à la direction des Républicains tenir un tel discours et derrière avoir la pratique qui va avec, oui, ça fait peur.
Guillaume Labbé, est-ce que pour vous, cette ligne Guillaume Larrivée-Julien Aubert, elle peut être majoritaire? On avait le sentiment qu'elle était portée par François-Xavier Bellamy aux Européennes.
Elle peut potentiellement être majoritaire. Après, Guillaume Larrivée-Julien Aubert, moi, c'est des gens de ma génération. C'est des gens qui ont travaillé à l'Élysée pour Sarkozy. Enfin, voilà, c'est un peu. On se fait un peu peur aussi. Hein, on est dans un. Le combat politique aujourd'hui est devenu assez. A besoin d'être sur Twitter, a besoin d'être impactant. Donc voilà, il y a des propos qui sont un peu durs. Maintenant, j'ai aucun doute sur le fait que Julien Aubert, Guillaume Larrivée sont des républicains, des républicains au sens où
il y a manière d'être dur. Hein.
Oui, c'est clair, ils sont de droite. Mais il faut quand même se dire que la réalité, c'est que l'opinion et l'époque dans laquelle on est amène à une forme de droitisation de la société, c'est certain, c'est clair.
Et dans quelques instants, puisque vous évoquez la droitisation de la société, on évoquera ici l'indignation après un incident au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un élu du Rassemblement national qui s'en est prise à une mère voilée qui était dans l'assistance. Ce sera juste après le rappel de l'information, 20h50, Steven Goyer nous a rejoint.
Nouvelle impasse dans la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Le test ADN est formel. L'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow n'est pas le principal suspect de la tuerie de 2011 à Nantes. Arrêté sur la base d'une dénonciation anonyme, ses voisins l'ont décrit comme un paisible retraité. Il a finalement été libéré tout à l'heure. La police écossaise avait hier annoncé que ses empreintes correspondaient à l'homme recherché pour le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Les militants LR appelés à élire leur nouveau président. Un vote électronique ouvert depuis un peu moins d'une heure et jusqu'à demain 20h. Les 130 000 adhérents devront départager les 3 députés candidats au poste, Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaume Larrivée. Un vote pour tourner la page de la déroute aux élections européennes qui avait entraîné la démission de Laurent Wauquiez. 3 noyades en 3 jours sur les côtes girondines. 2 hommes ont trouvé la mort aujourd'hui près de Lacanau et Graillan et l'hôpital. Ils n'ont pas pu être réanimés malgré l'intervention des secours. Jeudi, dans le même secteur, les secours avaient retrouvé le corps d'une jeune femme de 25 ans dont la disparition avait été signalée dans la journée. 5 matchs de top 14 de rugby au programme aujourd'hui. Toulouse s'est imposée tout à l'heure 36-15 face à Castres. Victoire de Bayonne contre Montpellier 28-24 un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et depuis un peu plus de 5 minutes, La Rochelle reçoit Brive, Lyon accueille la section paloise et le Racing 92 affronte Agen.
France Info et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
L'indignation en Bourgogne-Franche-Comté et au niveau national après la diffusion de cette vidéo, d'un incident qui s'est passé au Conseil régional hier soir. Un élu du Rassemblement national s'en est pris à une femme voilée du public. Elle accompagnait un groupe d'écoliers venus voir le fonctionnement d'une institution démocratique.
Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander, à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui.
Marie-Pierre Vieux des éditions Arcane 17, une réaction d'abord à chaud sur cette vidéo.
Je trouve ces images indignes, ce qui a suivi également indigne, puisque la dame a dû sortir, que son gamin était en larmes. Parlons laïcité, mais la laïcité, j'ai d'ailleurs été récupérée une déclaration qui datait du gouvernement de Nicolas Sarkozy avec Villepin, avec une charte qui avait été adoptée, et avec le fait que, c'est quoi la laïcité? C'est le fait que les agents du public, en effet, respectent la neutralité de leur fonction, et c'est un signe obsentoire, mais en même temps, l'espace public, il est neutre à partir du moment où on a la liberté d'y aller comme on est, comme on l'entend. Et je crois que c'est ce qu'il y avait hier, hein, là. C'était une accompagnatrice, c'était une maman. Et je crois d'ailleurs que le fait qu'elle accompagne son enfant d'une école publique en plus, hein, était le moyen pour elle d'entrer à la fois dans la vie publique, dans la vie laïque. Et je crois que les propos qui sont tenus, c'est le meilleur moyen de confiner un certain nombre de nos concitoyens dans le communautarisme. Et je trouve très grave ce qui est arrivé. Et je pense qu'il y a un déni, hein, et un délit également dans les propos de l'élu du Rassemblement national qui les a prononcés.
Et la présidente de région étudie les moyens potentiellement de porter plainte. A-t-on appris aujourd'hui? Oriane Mancini de Public Sénat, je me souviens il y a quelques jours, Jean-Michel Blanquer, interrogé par les sénateurs sur cette question des maires accompagnatrices voilées, qui disait ceci: sur le plan juridique, c'est tout à fait possible pour une mère d'être voilée. En revanche, nous n'avons jamais dit que c'était à encourager. C'est oui, c'est non, c'est en même temps. On ne comprend pas la position du gouvernement sur le sujet.
Il a toujours été ambigu, Jean-Michel Blanquer, sur cette question. On se souvient qu'en mai, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en mai 2019, il y avait le projet de loi, la loi école de Jean-Michel Blanquer, qui était examiné à l'Assemblée et au Sénat. Et dans les deux chambres, la droite a voulu faire passer un amendement interdisant le port du voile pour les accompagnatrices pendant les sorties scolaires. Évidemment, l'amendement d'Éric Ciotti à l'Assemblée a été rejeté. Au Sénat, il a été voté, cet amendement qui interdisait le voile pendant les sorties scolaires. Et Jean-Michel Blanquer a dit: je comprends que le débat se pose, on est contre cet amendement, donc on va s'y opposer, mais il en va de la responsabilité des directeurs d'école de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de mères voilées pendant les sorties scolaires. Donc Jean-Michel Blanquer, il rejette le fait qu'il faut interdire le voile pendant les sorties scolaires, mais il dit effectivement, c'est bien s'il n'y en a pas beaucoup, c'est bien si les directeurs d'école prennent leurs responsabilités. En clair, il dit le débat se pose, la question se pose, mais on ne peut pas le mettre dans le cadre de la loi.
Le 23 septembre dernier, invité par nos confrères de BFM TV, il disait ceci sur une affiche de la FCPE qui montrait une femme voilée. Regardez.
C'est un tout petit peu inquiétant parce qu'on voit qu'on est sur un sujet un peu électoral, là, puisque c'est les élections de parents d'élèves dans deux ou trois semaines. Le fait qu'on ait maintenant des groupes ou des organisations qui essayent de flatter le communautarisme pour avoir des voix n'est pas une bonne chose. Donc je pense que moi je respecte les instances de la FCPE, je considère qu'ils ont fait une erreur, je leur demande de la corriger tout simplement.
Élections scolaires qui tiennent ce week-end, hein, je précise. Quand il dit électoralisme, Jean-Michel Blanquer, c'est facile, Guillaume Labbé, ou ça décrit une réalité?
Non, ça décrit une réalité. Moi, j'ai une réponse un peu en même temps aussi. Évidemment, Jean-Michel Blanquer, je vois très bien sa préoccupation. Elle est évidente. Il y a 74% des jeunes de moins de 25 ans musulmans, qui sont déclarés musulmans, qui dans un sondage disent qu'ils sont contre l'idée que les filles n'aient pas le droit à l'école ou à l'université d'avoir un voile. Ils sont contre ça. On sait très bien qu'il y a un mouvement communautaire risque qui est considérable, qui est financé par des puissances étrangères qui sont là pour nous, en gros, pour détruire notre démocratie. Donc oui, il y a un sujet, évidemment, et Jean-Michel Blanquer, c'est sa préoccupation. Pour autant, ce qui s'est passé là, au Conseil régional, est absolument scandaleux. La loi sur la laïcité, c'est la neutralité religieuse des agents publics. Cette dame est une accompagnatrice, elle est une citoyenne, et elle vient emmener son enfant. Interpeller quand on est un gros élu, interpeller une pauvre femme qui est loin, qui ne peut pas se défendre et qui a probablement pas les mêmes codes que des gens formés par l'extrême droite française, c'est scandaleux. Et pour quelqu'un qui est censé être, je dirais, un homme de droite, c'est absolument sordide. Mais il faut se méfier énormément parce que Jean-Michel Blanquer doit, à mon avis aussi, évoquer cette réalité qu'il a déjà fait d'ailleurs sur une forme d'islamisme politique qui existe aussi, pour ne pas laisser que des gens comme cette espèce d'affreux conseiller régional reprendre en main en fait les codes et les valeurs de la République, comme l'ont fait cette fortune à l'époque aux Pays-Bas. Enfin voilà, cette espèce d'extrême droite qui arrive à transformer, à prendre les mots de la République, à les kidnapper en quelque sorte et les utiliser pour en faire en fait le nouveau lexique de l'extrême droite.
Merci beaucoup Guillaume Labbé, 20h57 sur France Info. Je rappelle que c'est le week-end du Pasteur Don, hein, le 36-20, pour faire un don, pour faire avancer la recherche. Merci à nos informés, Oriane Mancini, journaliste politique à Public Sénat, Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique à France 2, Marie-Pierre Vieux, directrice des éditions Arcane 17, et Guillaume Labbé, président de l'agence Comstrat. Bonne soirée sur France Info.